I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicants 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Jean-Charles Feli, fondateur de Safe Ferris. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour Alexis.
C'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Voilà, tu es un vrai passionné de production avec Safe Ferris. Alors tout d'abord, comment tu en es arrivé à monter Safe Ferris? Voilà les quelques grandes lignes de ton parcours. Et puis pourquoi Safe Ferris? Pourquoi ce nom?
les grandes lignes de mon parcours, c'est simple. Hein. Safe Ferris, c'est une société de production audiovisuelle. Et en fait, moi, depuis que je suis gamin, je suis un dingue de Cinoche. J'ai toujours rêvé, comme beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, travailler dans le cinéma. Donc j'ai toujours eu ce rêve secret de pouvoir un jour monter une société de production de visuels.
Avec personne dans ta famille d'ailleurs, tu avais des gens autour de toi qui étaient là-dedans ou pas?
Bah oui, alors justement, oui, alors j'avais, alors non, par contre, personne dans le milieu de l'audiovisuel, mais par contre mon oncle tenait un vidéoclub.
Ah,
et oui, et donc quand je partais en vacances, parce que souvent je partais en vacances, j'allais chez mon oncle et ma tante, comme tout un chacun, on va voir la famille. Et donc moi j'étais tout jeune et il avait un vidéoclub et donc c'est là où j'ai commencé à bincher. C'était un peu mon oncle, c'était un peu le Netflix avant l'heure, une plateforme avant l'heure. Et en fait je partais le matin avec lui quand il allait ouvrir le vidéoclub. Il récupérait les cassettes de la veille, donc toutes les nouveautés, les gens les ramenaient le matin avant d'aller au travail. Et moi, je récupérais, donc moi, je repartais vraiment une heure après avec 4-5 films. Et je rentrais et je rematais 4-5 films toute la journée. Je passais mes vacances, donc j'adorais aller chez mon oncle évidemment et ma tante. Et pour mater des films, donc je n'ai pas arrêté toute ma jeunesse de mater des films. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé vraiment, vraiment à apprécier. Je me suis fait une culture cinéma, notamment des années 80 et 90, d'où l'origine de mon nom, Safe Ferris, sans transition, tu apprécieras. En fait, Safe Ferris est un hommage au film de John Hughes. John Hughes est un célèbre réalisateur qui n'est plus parmi nous, malheureusement, qui fait les premiers teen movies américains des années 80. Il avait notamment Breakfast Club également, qu'il a fait. Et il a fait Ferris Bueller Day Off, qui est en français, le titre français, la folle journée de Ferris Bueller, avec Matthew Broderick. Et c'est en hommage à ce film que j'ai appelé la société de production Safe Ferris. Voilà.
Parfait.
Et donc, c'est la passion qui m'a animé et qui m'a mobilisé pour monter cette structure. En mai 2000, avec mes amis d'enfance, on a monté cette structure qui, depuis, chacun a fait d'autres choses. Mais on l'a quand même monté tous ensemble. Et c'est vrai que ça a été une super aventure. Et à la base, je viens de la musique. De la musique. J'ai travaillé longtemps chez Sony pour le label Columbia, le très beau label Columbia, où j'étais d'abord chef de produit et ensuite directeur marketing. Et ça a été une super expérience. Et c'est cette passion, en fait, du contenu, de l'IP, du marketing, du storytelling qui m'ont amené à monter ma structure. Après mon parcours chez Sony. En gros, je te l'ai fait dans le désordre,
c'est un podcast. Bien, c'était très bien résumé. Et alors, une société qui a déjà une belle longévité, puisqu'elle a plus de 20 ans, tu as dit 2000, je crois.
Tout à fait, on a monté en 2000, tout à fait, donc elle a 22 ans.
Maintenant. Avant Facebook, donc.
Avant Facebook.
Parfait,
oui, bien sûr.
Donc tu as accompagné tous l'essor du numérique à travers Safe
exactement,
Ferris.
Exactement.
Et donc, ton envie quand tu as monté Safe Ferris, c'était quoi? C'est un peu la ligne éditoriale, comme on dit, du producteur.
Alors, en fait, au départ, déjà, vu qu'on est from scratch, parce qu'on est parti de zéro, c'était une petite société, capital de 5000 euros au départ. On avait envie, enfin moi j'avais voulu vraiment faire du cinéma, mais on fait pas du cinéma comme ça, vous imaginez bien. Donc il a fallu attendre 12 ans quand même avant de faire notre premier long métrage. Et en fait, 12 ans, notre premier long métrage c'était Les Kaira, qu'on a coproduit avec La Gaumont, dont on n'est pas peu fier, réalisé par Gaston Bide, avec Mehdi Sadoun et Jim Poctier. Et c'est vrai que ça a été une super aventure. En attendant, il a bien fallu faire tourner la boîte. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, pendant 12 ans, on s'est développé. On s'est d'abord développé en produisant des documentaires pour les artistes, vu qu'on est de la musique. Donc, on a fait ce qu'on appelait à l'époque des EPK, un EPK en français, qui sont des vidéos de présentation d'enregistrement d'albums. En fait, on va dire que c'est comme un making-of de long métrage, mais pour l'enregistrement d'un album d'un artiste.
D'accord. Et t'as eu quel artiste que t'as pu faire
On en a fait plus de 80. Ça allait de Lenny Kravitz en passant par Elise Moon quand il est sorti son album. Donc oui, c'était assez varié. Mais c'était très sympa. Et puis bon, on est des passionnés de musique. Et en fait, c'est ce qui nous a permis aussi derrière de faire notre premier making-of de film. Donc petit à petit, on est passé du making-of d'artiste au making-of de film. Où j'ai fait mon premier making-of de film, c'était Brise de Nice.
Pas mal.
Où je me suis également occupé de la stratégie digitale. Et grâce à cette stratégie digitale et au succès qu'a eu Brise de Nice, en partie avec notre petite pierre à l'édifice, évidemment, c'est tout revient à Jean Dujardin. Mais nous, on a mis notre petite pierre à l'édifice. On a pu derrière, évidemment, proposer aussi nos services à Pepsi. Et c'est comme ça qu'on a travaillé également avec Pepsi. Et au même moment, on commençait à se diversifier donc, du making of musique au making of cinéma. On a repéré une petite série, à l'époque, sur Dailymotion.
D'accord.
Un Dailymotion. Donc, qui s'appelait Kaira Shopping, qui avait été autoproduite, qui était très drôle, très disruptive, mais vraiment drôle. Alors, bon, il faut savoir que moi, chez Columbia, je m'occupais du rap français, qui a cartonné au début des années 96-97. Et donc, je connais bien cette cible urbaine que j'apprécie tout particulièrement. D'ailleurs, j'aime encore maintenant beaucoup le rap français, même à 52 ans. Et c'est mes enfants aussi. Et c'est vrai que quand on a vu Kaira Shopping, on s'est dit, je l'ai tout de suite compris qu'il y avait du potentiel.
T'as eu le coup de cœur.
Ah, j'ai eu le coup de cœur.
T'as déniché la pépite.
On a déniché la pépite. Et puis surtout, ça m'a vraiment fait rire.
Il y avait combien de sketchs?
Ils avaient autoproduit 3 sketchs de 2 minutes, je crois.
D'accord.
3 sketchs, ouais.
Et il y avait déjà Franck Gastambide dedans.
Il y avait Franck Gastambide dedans, tout à fait. Mehdi Sadoun.
D'accord.
Et Jib Poctier, les trois. Les trois Kaira étaient là déjà dedans.
Et ce qui t'a plu, c'est le ton, c'est la liberté.
Les vannes. Ah, moi j'adore.
C'était des snipers.
Ah, c'était des snipers. Et puis les voix qu'ils avaient prises, c'est vrai comédien. Quand on voit Mehdi Sadoun, qui est d'une gentillesse incroyable, et quand on le voit en personnage d'Abdelkrim avec sa grosse voix, façon grosse Kaira de cité, il est vraiment excellent. Donc non, il y avait vraiment beaucoup d'humour, beaucoup d'amitié dans cette équipe. Et donc ça a été vraiment, on a vécu des belles années au travers de cette série Kaira Shopping. Qu'on a pu produire. On a fait 4 saisons. C'est canalplus.fr, donc canalplus qui nous a suivis.
D'accord. Ouais. Sur combien ils t'ont pris tout de suite? Il a fallu batailler, j'imagine.
Faut toujours batailler. Rien n'est si simple, mais on fait un peu de storytelling. Donc on a quand même eu beaucoup de chance. Le programme était quand même très original. Et puis on a eu l'appui d'Ariel Saraco. Ariel Saraco qui m'a permis de devenir producteur de fiction.
C'était la directrice de la fiction.
De la création originale.
De Canal.
Je ne sais pas si c'était son titre exact à l'époque, mais enfin, en tous les cas, c'est elle que j'ai été voir avec Charlotte Meunier à l'époque et qui nous a...
Issy-les-Moulineaux.
Alors,
ou à Boulogne.
Non, c'était dans le 15e, je crois qu'ils étaient dans le 15e, voilà. Dans l'immeuble.
En tout cas, sur les bords de Seine.
Ouais, sur les bords de Seine. Ouais, je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est Issy-les-Moulineaux ou le 15e, je crois que c'est le 15e. Et en tous les cas, c'était super, on a été très bien accueillis, mais c'est vrai qu'Ariel a dit quand même, Jean-Charles, c'est un petit peu subversif ton truc.
T'avais une Bible ou t'avais juste le pilote?
On avait les pilotes et quelques exemples d'épisodes.
T'avais quoi, 5 épisodes écrits?
3 épisodes. Ça, ouais, on va avoir 3 épisodes pilotés et puis les pitchs d'épisodes à suivre. Voilà.
D'accord. Et elle a flashé, bien sûr.
Mais elle a tout de suite vu que c'était compliqué pour elle de nous programmer sur Canal+.
Oui.
Parce que c'était compliqué, parce que même si Canal, c'est quand même la chaîne qui permettait de sortir, de dénicher les talents. Il y en a encore beaucoup d'ailleurs qui sont encore parmi nous.
C'est sûr, ils ont creusé un bon sillon dans l'univers des talents français.
Entre Jamel Debbouze, Omar Sy quand même. Entre Radio Nova et Canal+, c'est vrai qu'il y a eu... Il y a eu quand même beaucoup de talents découverts, et notamment issus de la diversité. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et nous, on est très contents d'avoir pu participer et d'en faire aussi partie. Parce qu'on n'est pas du sérail. C'est vrai que Canal a cette particularité, c'était de dénicher des talents hors sérail.
Et vous t'as donné ta chance.
Elle m'a donné ma
de
chance
producteur,
en tant que producteur.
Ce qui était une vraie chance.
C'est vraiment une vraie chance. Donc, c'est comme ça qu'on est venu à produire 4 saisons. Avec une petite alors ça c'est mon parcours dans le marketing, où on a eu la bonne idée de proposer à Pepsi de parrainer la série,
parce que t'étais en digital en plus.
Et c'était en digital parce que c'est canalplus.fr qui nous a pris la série.
T'étais pas sur l'antenne?
On n'était pas en premium, on n'était pas sur l'antenne, on était uniquement on était uniquement digital. C'est-à-dire que Kaira Shopping est devenue en fait la première série originale de canalplus.fr. Ce canalplus.fr avant c'était un relais de l'antenne souvent. Et en fait, là, ils avaient décidé d'éditorialiser canalplus.fr avec Adrien Cousin. C'était Adrien Cousin à l'époque.
Intéressant. Ils le font toujours à ce point-là ou pas?
Alors, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu canalplus.fr.
C'est intéressant que tu sois rentré par cette fenêtre. Canal.
D'accord. Donc, maintenant, tout a un petit peu évolué. En tout cas, canalplus se débrouille super bien. Moi, c'est évidemment un média que j'apprécie tout particulièrement, avec lequel j'ai beaucoup d'affectifs. Parce que bon, forcément, c'est comme Sony, c'est des marques, voilà, c'est des belles marques, mais c'est des marques iconiques. Et pour moi particulièrement, parce qu'elles elles ont vraiment participé à mon épanouissement professionnel. Donc voilà, donc il y a des chaînes, des partenaires, qu'on n'oublie pas.
Combien d'épisodes par an ça représentait, Kaira, quand tu étais sur Canal+?
On a dû faire, je crois que la première fois on a dû faire 40 épisodes.
D'accord. Ça shootait en continu ou tu shootais un peu au fil de l'eau?
On faisait des sessions, on faisait je crois entre 4 et 5 épisodes par jour sur des saisons d'une dizaine de jours.
Ça d'accord. Des choses comme c'était ça. Tourné où en général?
On tournait toujours au même endroit, dans le 13e, en bas de la tour de chez Midi.
Ok, bon, ouais, c'est précis. Sympa. C'est précis comme ça.
Tour Ruby.
D'accord. Tu peux parler un peu des budgets ou pas trop?
Non, on va pas parler des budgets.
Non, on va rester sur le rêve.
Voilà, en
et
gros,
la passion.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis de faire vivre cette IP, donc de faire vivre cette création originale. Ouais. Et puis ça nous a permis, grâce à ça, après de pouvoir
faire
mettre
le film.
Et puis surtout de mettre Pepsi dans la boucle avec nous.
Parce que ça, c'était précurseur. C'est pour ça aussi que je voulais t'inviter, Jean-Charles. Je me permets de dire un peu, dévoiler les coulisses de cette invitation. Mais ce que j'avais beaucoup aimé dans ton parcours, c'est que tu as pu mixer finalement des vrais projets autonomes, des IP, comme tu dis, des projets maison, avec des marques qui sont venues en parrainage, notamment le cas de Pepsi. Mm-hmm. Et ils ont beaucoup aidé. Donc,
Pepsi,
sans tout révéler sur les budgets, ils ont été un apport quand même significatif pour faire de la production. Quoi.
Bah, en fait, Pepsi, pour nous, ça a été vraiment une super opportunité. Parce qu'en fait, ça nous a permis de faire vivre ce projet et de pouvoir rentabiliser ce projet.
D'accord.
Parce qu'en fait, nous, on a créé de l'IP, on a créé de la notoriété, on a créé du trafic sur le site carashopping.fr. On a commencé à exister chez Canal, mais vu qu'on avait des petits budgets, puisque c'était le .fr, c'était compliqué d'en vivre. Mm-hmm. Donc, c'était compliqué de le rentabiliser. L'arrivée d'une marque comme Pepsi, à partir du moment où les trois personnages de la série sont devenus les égéries de la marque pour la France pendant 5 ans, ça nous a permis d'avoir un gain. Ça nous a permis de gagner de l'argent et de pouvoir faire vivre nos auteurs et nos interprètes et la production qui va avec pendant cette période-là. Donc, ça n'a pas été rien. Et en plus, ça, c'est le premier effet. Donc, d'abord, un premier effet en termes de retour sur investissement, c'est-à-dire de pouvoir faire que ça fasse vivre tout le monde. Donc, tout le monde pouvait en vivre, donc manger et dormir avec, ce qui était important. Et puis aussi, ça nous a permis de développer la notoriété de la marque carashopping.fr, puisque le coup de maître qu'on avait réussi à faire avec Pepsi, c'était toutes les publicités Pepsi renvoyées sur l'URL de carashopping.fr et non pas pepsi.com. C'était l'URL français de carashopping.fr. Et ça nous a développé une notoriété incroyable. Ils étaient en campagne télé. Et de la campagne télé, ça renvoyait sur le digital.
Ça, c'était précurseur, oui, parce que vous avez développé la marque, finalement, le programme.
Exactement.
Et la marque a eu l'intelligence de se mettre à ce service.
Exactement.
Plutôt que de plus trop à partir dans du
publicitaire. La marque a été top, très culottée en plus. C'était Emmanuel Pinto à l'époque, le directeur marketing, que je salue au passage. Et Grégoire Argan.
Tu les connaissais bien avant ou ça
non,
s'est
en
fait,
Grégoire
fait, ça
Argan
s'est fait
était,
sur une
était,
rencontre
alors, il s'avère que Grégoire Argan, je le connaissais d'avant. Il était stagiaire chez
D'accord.
Sony quand moi, j'étais chef de projet.
Le monde est petit. Comme
donc, comme quoi, on se retrouve toujours dans ce milieu.
D'accord.
C'est pour ça que tous les auditeurs, tous les jeunes auditeurs, souriez quand vous montez, vous croisez les mêmes quand vous descendez.
Ah oui, j'aime bien cette phrase. Exactement. Donc, c'est intéressant. Et ils ont matché vraiment sur l'intérêt créatif ou ils ont quand même pensé la déclinaison, comme tu l'as dit,
ouais.
Comment ils vont pouvoir se pluguer sur leur site, tel ou tel
projet. Alors, en fait, ils ont eu d'abord une approche coup de cœur sur le projet. Donc, c'est exactement ça. Carrière Shopping, ça a été d'abord un coup de cœur pour les gens qui le regardaient. C'est-à-dire qu'on a d'abord, ils ont trouvé ça très drôle. Ensuite, ils ont tout de suite compris leur intérêt parce que Pepsi a une problématique en France qu'ils n'avaient pas à l'international. Autant dans le monde, Pepsi se partage le marché avec Coca. Hein, autant en France, Coca est quand même vraiment le maître sur le marché français. Et Pepsi avait une vraie problématique d'essayer d'émerger quand même coûte que coûte.
Challenger.
Voilà, c'est vraiment le challenger. Et donc, comme tout challenger, il fallait qu'il existe. Et ils se sont dit, et c'est là l'intelligence de Pepsi France, d'Emmanuel Pinto et Grégoire Argan, c'est de se dire, plutôt que d'essayer de faire comme les autres, d'avoir des sportifs locaux, des choses comme ça, ce qu'on va faire, nous, on va aller sur un programme disruptif et autour de la création originale et de nouveaux talents, les talents de demain en fait. Bon. Donc, ils sont positionnés sur les talents de demain. Et évidemment, bah, ça leur a vraiment servi. Je crois qu'ils ont doublé leurs ventes, hein, sur le territoire français. Alors, c'était des, donc, ils n'avaient pas un énorme pourcentage, mais je crois qu'ils ont doublé leurs ventes. Donc, je crois qu'en termes de canettes, c'est des millions de canettes en plus vendues. Puis, ouais, ils étaient très présents. Il faut savoir que Pepsi est très, très présent dans les kebabs. Alors ça, tout le monde ne le sait pas, mais ils sont très, ils avaient le marché des kebabs à l'époque, et aussi, et donc c'était un moyen aussi de, sur cette cible entre guillemets CSP moins, parce qu'on va, pour le coup, on parlait vraiment de CSP moins, d'arriver avec des héros d'aujourd'hui qui correspondent un peu à la cible, et surtout sur lequel l'humour était l'élément clé de communication. D'accord. C'était surtout de faire rire, parce que quand on fait rire, forcément.
En t'écoutant, Jean-Charles, il n'y a pas eu énormément de précédents quand même de marques, ou même de d'autres marques qui ont fait ce qu'a pu faire Pepsi.
Mais d'ailleurs, ils n'ont pas pu le refaire derrière, et en fait. Si, ça a été fait. Nous, on l'a refait après avec la Banque Postale et une série qui s'appelait Dans la Bouche, qu'on avait aussi produit. D'accord. Pour Canal. Mais on n'a pas été jusqu'au cinéma. Mais on a quand même fait 6 saisons avec la Banque Postale. La série s'appelait Comme le disent, qui était quand même un spin-off de Dans la Bouche. On avait pris pas les mêmes comédiens, mais c'était les mêmes auteurs et les mêmes réalisateurs. Et c'est vrai que ça a été une belle histoire aussi. Mais Kaira, cette particularité, c'est qu'on est passé en 4 ans du web au cinéma. À une vitesse assez maîtrisée. D'accord. Et évidemment, à chaque fois, en agrégeant des nouveaux talents, aussi bien dans le métier de la production, puisque Gaumont est venu nous rejoindre, Mandarin est venu nous rejoindre. On a eu aussi d'autres auteurs qui nous ont rejoints. On a eu plusieurs... on a agrégé au fil de l'eau, dans l'avancée de notre... on a agrégé des talents de différentes activités liées autour de la fiction et du cinéma.
Il était en web aussi, Dans la Bouche ?
Dans la Bouche, il était en télé. Il était en télé sur Canal. Et après, nous, on a développé le spin-off digital.
D'accord.
Sur une série dont on a eu le grand prix du Brain Content. D'accord. Qui s'appelait C'est la Banque Postale. C'était Thomas Salvejo qui était le directeur marketing. Et on avait développé, je crois, 6 saisons d'une série qui s'appelle Comme le disent. C'était sur les idiomes, tout ce que disent les gens, comme le disent les chauffeurs de taxi, comme le disent les femmes enceintes.
D'accord.
Voilà. Et ce qui est clé pour. C'était lié au bancaire. On a fait un spin-off autour des produits bancaires.
Ce qui est clé pour embarquer ce type de projet, c'est beaucoup l'écrit. Donc ça va être les synopsis, ça va être le dossier en amont.
Alors, j'ai envie de dire quelque chose. Ouais. D'abord, évidemment, il y a l'idée, mais c'est vraiment de l'écrit. C'est d'ailleurs une de nos principales activités, c'est de lire, relire et re-relire. C'est vraiment de l'écrit. C'est-à-dire que tout passe par l'écriture. C'est vraiment donc les auteurs, évidemment, en premier lieu. Auteur scénariste, hein, j'entends bien. L'idée de départ, mais enfin, avoir une idée au départ, c'est bien. C'est l'amener à bien qui fera la différence. Comme on dit chez nous en Corse, entre dire et faire, il y a la mer. Et c'est vrai que entre celui qui a l'idée et celui qui va réussir à la faire vivre, voilà, c'est exécution, c'est là où il y aura la différence. Donc c'est vrai que ça passe par évidemment l'écriture en premier lieu. Et puis après, voilà, c'est savoir agréger les bonnes personnes. Et puis rien n'est simple, hein, mais bon, c'est faisable. En tous les cas, on a réussi à le faire, et puis derrière, on a enchaîné, puisqu'on a fait quand même 10 films en 10 ans, depuis 2012, depuis les Kaira.
Dont des long métrage
digitales. Alors, non, pas long métrage, on a fait de la fiction. Mm-hmm. On a fait un autre long métrage derrière qui s'appelait Les Francis, qui est une super petite comédie avec TF1, qu'on a fait avec TF1, Mars Distribution et Canal aussi, qui nous avait suivis. Et puis après, derrière, on a enchaîné avec les séries Studio Plus, qui était la première plateforme française. Mmh. On a fait 5, la première série pour Canal Play qui s'appelait Frat. Et ensuite, derrière, on a enchaîné avec des unitaires fiction télé. France Télévisions nous a fait confiance sur un meurtre à Tahiti. On a fait un coup de foudre à Bangkok aussi pour TF1. Et là, le dernier qu'on a fait, qui a été diffusé au mois de juin, qui a battu la finale de The Voice, qui s'appelait Dans l'ombre des dunes, un polar noir, très bien, avec Bruno Salomon, Eric Assinthe et plein d'autres, Michael Lumière. Et c'était un très très bon, très beau film. On est très contents.
Voilà, d'accord. Donc c'est assez varié entre du ciné, du brand content, de la fiction télé.
Exactement.
Qu'est-ce que tu as préféré comme format ? Tu es très éclectique ou il y a format que où tu préfères t'exprimer ?
En fait, ce que j'ai préféré comme format, le format cinéma, forcément, il est très flatteur, mais il est très engageant. Le format court, il est très drôle, il est très rapide. Donc en fait, chaque format, c'est comme dans la vie en général. Je pense que chaque moment va avoir des choses positives. Et c'est pareil pour les formats. Il y a des formats qui vont être hyper sympas. Là, par exemple, je développe un format autour d'un contemporain corse, enfin qui s'appelle Pascal Paoli, qui est celui qui a écrit la Constitution corse, qui a été repris ensuite par les Américains, qui est donc qui, du 18e siècle, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel. Donc là, on a développé un programme d'humour court autour de Pascal Pauly. C'est du 3 minutes, mais c'est très sympa à faire. Et en même temps, ça ne nous empêche pas de travailler sur du 4 fois ou 6 fois 52 minutes, où là, c'est très engageant, c'est de la grosse série. Donc en fait, je trouve que chaque format a son intérêt.
D'accord.
Y a des formats, le format court, il va être très sympa parce que justement, il va être plus nerveux, plus rapide à l'exécution. On aura tout de suite le gain de notre travail. Le format long, il va être plus engageant, mais en même temps, in fine, c'est vrai que quand on est dans une salle et quand on voit 400, 500 personnes qui rigolent à une vanne au même moment, c'est jubilatoire. C'est vraiment le pied. Parce que moi, quand même, ce métier, on le fait pour les autres. Enfin, on le fait pour les gens. Il faut aimer les gens. C'est un métier où il faut aimer les gens. Il faut être généreux. Et c'est vrai que on a envie que les gens prennent du plaisir quand ils regardent notre travail. C'est la clé de notre... Enfin, c'est un vrai métier de passionné. Après, c'est pas si simple que ça, mais... Et malheureusement, tout le monde n'est pas forcément dans ce qui respecte ce cahier des charges. Mais en tous les cas, nous, c'est notre motivation chez Seyferis.
D'accord.
Voilà, parfait. C'est quand même de faire que les gens prennent du plaisir à regarder nos productions, que les gens qui nous ont fait conscience retrouvent leur petit, voilà, et que ce soit une belle histoire pour tout le monde, in fine.
Alors, on sent que tu es un producteur très multifacette. Toi, tu préfères cette phase de conception, cette phase de vente, à trouver les Ariel Saraco qui vont signer tes projets, parce que tu l'as dit quand même, il faut toujours trouver le diffuseur qui va suivre.
Bah, c'est ça qui va permettre de faire vivre le projet. Sans le diffuseur, ça reste dans les tiroirs.
Exactement. Ce que nous a expliqué, tu sais, Harold Valentin, qu'on a reçu de 10%, qui nous disait que la chaîne avait pu le débloquer même sur des écritures. Il était sur son scooter, il ramait sur certains pilotes et c'est la remarque d'un diffuseur qui lui ont permis de retravailler le scénar et de repartir sur les bons axes narratifs. Mais toi, dans toute cette phase, qu'est-ce que tu préfères? Alors, c'est l'ensemble du process ou c'est quand même quand ça avance de rentrer en prod ou...
Alors en fait, il y a plusieurs moments assez sympas. Alors là, effectivement, pour reprendre ce que tu disais sur les conseillers de programme, c'est hyper important d'être à l'écoute et de parce qu'effectivement ils ont le recul nécessaire et ils ont l'expérience nécessaire par rapport à leurs médias qui nous permet aussi parfois d'adapter et de effectivement débloquer, parce que quand on est vraiment dans l'écriture et qu'on suit avec l'auteur et qu'on développe, on n'a pas forcément le recul nécessaire. Donc à partir du moment où on va commencer à faire circuler le projet, les éléments d'écriture, que ce soit un synopsis détaillé, un séquencier ou même un scénario, on va tout de suite avoir le regard de l'autre et le cerveau de l'autre, derrière le regard, le cerveau. Et donc forcément, ça rajoute une force supplémentaire. Donc ça, c'est assez sympa de travailler l'écriture avec des gens qui rentrent dans la boucle. En plus, généralement, quand on a un conseiller de programme, ça veut dire qu'on a signé déjà un développement, donc on a déjà un partenaire un peu solide avec nous. Donc là, après, on rentre dans des vrais échanges, des vraies discussions, tout le monde va dans le même objectif, faire le meilleur film ou la meilleure série possible, le meilleur programme, le meilleur contenu possible. Donc ça, c'est assez sympa, effectivement. Je trouve que c'est un moment assez jubilatoire. En même temps, le développer tout au départ, avoir une idée, puisque nous, on a une particularité chez Seyferis, c'est qu'on fait très, très peu, voire jamais d'adaptation. On n'a jamais fait d'adaptation. Toutes nos idées, ça a toujours été des idées originales à la base. Il y en a d'autres. On s'inspire très peu de faits réels. Il y a plein de sociétés de production qui le font déjà, qui s'inspirent de faits réels ou qui adaptent des histoires, notamment souvent tragiques, à la télé ou au cinéma. Nous, c'est vrai qu'on est plutôt sur une ligne éditoriale un peu différente, plutôt au spectacle. Moi, j'aime bien le grand spectacle. Bah, je vous rappelle, mon oncle, Vidéo Club, tout ça, j'étais petit, tout ça.
Quels films t'ont marqué? Donc, tu as dû aimer Top Gun récemment.
D'ailleurs, j'ai préféré le deuxième au premier. J'étais déjà un petit peu vieux sur le premier Top Gun. Enfin, un petit peu vieux, j'étais déjà un peu plus âgé. J'avais déjà commencé à aiguiser ma critique. Non, mais moi, quand j'étais plus jeune, effectivement, le cinéma américain, j'adorais. Moi, j'ai adoré Greasers. Enfin, Outsider avec les Greasers. Donc, c'était vraiment un de mes films de culte que j'ai dû voir, je sais pas, une vingtaine de fois. Évidemment, La Folle Journée de Ferris Bueller que j'ai adoré. Donc, Coppola, John Hughes, toute cette... voilà, tous les films qu'on a regardés quand on était plus jeune nous ont marqué à vie, quoi. Mais c'est vrai que maintenant sur je sais plus.
On était non sur le spectacle.
Tu m'as perdu.
T'as parlé du spectacle.
Ah oui, sur la ligne éditoriale. Merci. Oui, sur la ligne éditoriale, c'est vrai qu'on est plutôt sur un registre spectacle. Moi, j'aime bien l'aventure, j'aime bien l'action, j'aime bien l'humour. Donc c'est vrai que tout ce qui est trop tragique, j'ai tendance ça me. J'aime bien l'émotion, mais pas au travers de la tragédie ou de la souffrance. D'accord. Donc, je pense qu'il y a des meilleurs producteurs pour faire des films d'auteur que moi. Donc, je préfère leur laisser la main. Chacun a ses particularités. Moi, c'est vrai que j'aime bien les très belles histoires. J'adore les happy ends. Ça, c'est mon côté un peu gamin. J'aime bien quand ça finit bien. Bah, c'est comme ça. Voilà.
T'aimes les bonnes comédies romantiques?
Comme j'adore les rom-coms. J'adore. Mais
les publics adorent en général.
Je suis une vraie jeune fille, moi. Non, mais c'est vrai. Les comédies romantiques, je trouve ça absolument. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu la série Crash Landing on You. Je vous invite à la regarder. Mmh. J'en profite, qui est sur Netflix, qui est géniale, qui est une série coréenne, qui est absolument fabuleuse, entre une coréenne du Sud. Successful girl qui tombe folle amoureuse d'un soldat de Corée du Nord après avoir atterri en parapente en Corée du Nord malencontreusement suite à une tempête, et franchement ils ont déroulé, voilà, ça, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit et super plaisant à regarder. Donc voilà, on est plutôt sur notre ligne éditoriale, c'est plutôt sur du voilà, il faut qu'il y ait des belles histoires originales.
D'accord.
Voilà, avec du spectacle.
Alors,
voilà.
Quand même, petite question sur le cinéma, parce que sur les Kaira, c'est intéressant, ouais. Vous avez passé du digital au cinéma.
Ouais.
Comment ça a été différent, l'exercice de monter ce projet, j'imagine.
Et ah bah, les Kaira, c'était épique. Hein.
Qu'est-ce que tu en as retiré? Parce que
j'imaginais bien que quand nous, on montait donc les Kaira, donc l'histoire de ces trois garçons de quartier qui n'ont pas de meuf, pas de thunes, pas de taf, et qui, pour trouver une solution à ces trois problématiques, bah, décident de devenir acteurs. De porno, parce que ça répond à leurs trois problématiques. Ils gagnent de l'argent, ils tapent des meufs et en même temps ils ont un travail. Donc ça, c'était le pitch des Kaira, hein, c'est le pitch du film. Donc dites-vous bien qu'elle
allait aller pendant deux heures après.
Voilà, donc autant vous dire que quand à l'époque Sarkozy voulait nettoyer la banlieue au Karcher, et quand vous alliez pitcher le film, après avoir fait Kaira Shopping quand même, où on vendait quand même des pitbulls qui avaient attaqué des petites, c'était pas toujours très. Voilà,
c'était corrosif
pas
en tout cas.
Que ça.
Donc, c'était audacieux.
Fallu, voilà, c'était audacieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a fallu quand même une certaine force. Forme une force de conviction qu'on a eue avec l'équipe de Kaira Shopping et de Safe Ferris pour aller trouver les partenaires, et on les a trouvés. On a même réussi à, vous savez, je ne sais pas si tu te souviens, mais on a réussi à faire la morning de Nikos sur Energy. Tous les matins, on faisait le répondeur des Kaira.
D'accord.
Et en fait, tous les matins, les Kaira laissaient un message de répondeur.
Pas mal.
Voilà, évidemment, c'était préenregistré.
Tu faisais ton licensing déjà,
voilà,
sur la radio.
Et Énergie, donc, tous les matins. Alors, c'était pas du tout la ligne éditoriale d'Énergie. Et un jour, le grand patron d'Énergie s'est dit, mais c'est quoi ce truc que vous mettez le matin, là? Ah, mais ça, c'est les Kaira, ça va cartonner et tout. Donc ça, c'était à l'époque Guillaume qui nous avait mis à l'antenne, et c'était un très très bon souvenir. Mais c'est vrai que rapidement après, on s'est fait sortir d'Énergie, on a duré un an, mais ça faisait beaucoup rire Nikos, qui a beaucoup d'humour. Je sais pas si tu connais Nikos, mais voilà, qui est un mec super et très drôle, et donc ça l'amusait beaucoup de faire ce projet tous les matins, d'avoir ces messages des Kaira. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, mais bon, voilà, c'est en fait, on a réussi à passer du web au cinéma, bah, grâce à notre force de persuasion, à la qualité d'écriture du scénario, au fait qu'on ait travaillé énormément sur l'écriture, à l'appui aussi de nos partenaires Eric Altmaier et Nicole Altmaier, qui nous ont aidés.
Ce sont des grands producteurs de Mandarin. Que voilà. Tu connaissais via
Brise Denis. Brise Denis, même avant, de 3-0, puisque j'avais sorti leur bande originale chez Sony.
Fabien Antoniente.
J'avais rencontré Nicole Altmaier à l'époque de 3-0.
D'accord. C'est
vrai. Quand j'avais sorti la bande originale du film avec Tommy Bugsy, de Fabien Antoniente, exactement. Et vu que moi, je m'occupais du rap, et donc, entre autres, et aussi de Stomy en particulier, bah, du coup, j'avais pris la BO dans mon line-up, dans mon roster, comme on dit. Et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Donc, j'ai été les revoir après pour leur proposer de faire du making-of, forcément. Hein. C'était ma société. Et ils m'ont dit, écoute, Jean-Charles, pourquoi pas, est-ce que tu connais un personnage qui s'appelle Bryce Dennis? Et il s'avère que je connaissais Bryce Dennis, puisque j'étais sur le plateau de Graines de Star quand il avait fait l'une de ses premières télés. Juste après Les Nous, C'est Nous, je crois, de mémoire. Et à l'époque, moi, je m'occupais d'une artiste qui s'appelait Nadia, qui faisait aussi Graines de ça. Et c'est comme ça que j'avais vu Brise Denis. Donc, que j'ai pu en reparler avec Nicolas Altmaier.
C'est marrant parce que quand on prend ces deux exemples, Bryce Dennis et les Kaira, et tu parlais du goût du spectacle à l'américaine, c'est vrai qu'on sent que c'est à la fois des projets qui avaient leur ligne audacieuse, mais en même temps, le marketing, il a été plus mûr que dans plein de films français, j'ai l'impression, en termes de comment ça a été pensé. Et on a... C'est pas toujours le cas de, je sais pas ce que tu en penses, dans l'entertainment français, bah, d'anticiper, ça peut être un personnage marquant comme Brice.
Alors,
peut-être tu vas me dire ça n'a pas été pensé en amont et c'est ensuite que. Mais enfin, on sent que tu as internalisé tout ça dans ta réflexion de producteur. qui est un petit peu plus à l'anglo-saxonne qu'à la française, entre guillemets.
Alors, je ne veux pas faire de French bashing.
Non, il ne s'agit pas de French bashing.
Mais c'est vrai que bon, moi, en tout cas, ce réflexe, je l'ai appris quand même. Moi, j'ai été élevé professionnellement, j'entends, par Sony. Donc, j'étais au marketing.
Oui,
donc
voilà,
forcément.
Tu fais du marketing.
Et nous, dans la musique, on ne déléguait pas à des agences, contrairement à d'autres marques, ou notamment dans les marques de l'agroalimentaire. Ils vont prendre une agence qui vont travailler pour eux, qui vont leur amener justement cette réflexion marketing. Ils n'ont pas forcément le temps. Dans la musique, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans la musique, c'est le chef de projet avec le directeur marketing qui réfléchissent et qui travaillent sur les stratégies.
Qui lance le produit.
Exactement,
quoi.
Qui lance le produit. Le produit, ça veut dire que c'est le disque, hein, c'est évidemment pas l'artiste. L'artiste n'est pas un produit quand on dit chef de produit ou chef de projet.
Oui,
le projet, c'est le CD.
Hein, non, mais l'artiste reste l'artiste.
L'artiste reste l'artiste. Les artistes, d'ailleurs, ont été... Bon, alors, il y a eu certainement quelques contre-indications, mais enfin, la majorité des artistes ont toujours été quand même extrêmement bien chouchoutés quand même au sein des majors, et particulièrement au sein du label Columbia. Et c'est vrai que moi, je garde un très, très bon souvenir de cette période, et j'ai beaucoup appris en marketing, que ce soit en digital, en marketing digital, puisque moi, j'ai vécu l'arrivée d'Internet. Mm-hmm. Moi, j'ai vu l'arrivée d'Internet. J'ai vu l'arrivée de l'euro et d'Internet. Vous voyez, à peu près... oh, putain, je suis pas tout jeune. 52 ans, hein, désolé. Alors, faut dire à tous les jeunes, on n'est pas les boomers. Hein, c'est pas nous, les boomers. Nous, mm-hmm. on est les fils de boomers. Voilà, mm-hmm. voilà. Non, parce que maintenant, on se fait traiter de boomers. Mais non, moi, c'est pas nous, les boomers. Et non, c'est juste pour la petite anecdote. Et
donc d'accord, c'était avoir fait tes classes dans la musique. C'est
ouais,
ça
les
qui
classes,
t'a donné...
mais ça, j'ai énormément appris.
C'était une grande école. Ça
a été la meilleure école. Sony, ça a été absolument une école fabuleuse pour moi. Sans Sony, alors j'aurais peut-être tous les chemins mènent à Rome, on va dire. Mais sans Sony, j'aurais pas eu autant le regard aussi bien sur le marketing que sur l'IP. Parce que quand on travaille dans une major, quand tu travailles dans une maison de disques à l'époque, on est obligé de travailler avec différents corps de métiers déjà. Donc on travaille avec un service juridique. Bah parce que c'est quand même de la captation de droits. Hein. C'est-à-dire que quand vous signez un artiste, bah vous signez ses droits. Quand vous signez un auteur-compositeur, bah bon là, ça c'est pour la partie éditoriale, mais enfin, quand vous signez un artiste, quand vous signez avec des producteurs, vous signez différents contrats, soit des contrats d'artistes, soit des contrats de distribution, soit des licences. Enfin, à chaque fois, donc il y a une approche avec le service juridique qui est très importante. En fait, il s'avère que nous, dans notre métier de producteur, le juridique est très important. Il y a une partie financière, on travaillait déjà sur des PNL, ce qu'on appelait les PNL, profit and loss, savoir combien on investit et combien ça va nous rapporter. Donc il fallait se projeter, donc ça restait des paris quand même. Hein. Parce qu'évidemment, c'est comme quand on lance un film, rien n'est signé. On ne sait pas si on va faire 100 entrées ou si on va faire 2 millions d'entrées. Donc il y a un vrai pari, hein, et donc pour ça, il faut avoir une vraie conviction. Et donc ça, c'est vraiment les armes que j'ai faites chez Sony qui m'ont permis derrière de dérouler. Mais je vous avoue que j'ai travaillé dans la musique en espérant un jour pouvoir me rapprocher du cinéma. Parce qu'en fait, ma vraie motivation à la base, c'était quand même le cinéma. Même si j'adore la musique, hein, mais c'est quand même le cinéma qui m'a toujours fait rêver depuis tout petit.
Et ça t'a autant fait rêver après l'avoir fait? Parce que t'as l'air de dire que c'était des grosses entreprises et que t'as aimé continuer le digital et la télé après.
Alors, les risques sont très conséquents dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il suffit des risques qu'on n'a pas forcément dans nos mains. Je vous dis un exemple, par exemple. Tu sors un film, même si le film est super attendu, qu'il y a un super buzz et que ça va cartonner, si la veille, tu as un attentat ou quoi que ce soit, ça peut complètement changer la donne pour ta sortie. Oui. Et tu peux planter un film. Donc,
et à l'inverse, il peut y avoir de la chance si c'est sorti dans le Nord, ou qu'il y a une bonne sortie intelligente.
Exactement. S'il pleut toute la semaine au moment où tu sors, que les gens ne savent pas quoi faire, ils vont tous aller au cinéma. Donc, tous les cas sont possibles. Moi, ce que j'aime vraiment, en fait, ce que j'ai compris avec le temps, ce que j'aime vraiment, alors, c'est pas l'excitation du lancement d'une sortie, parce que je suis pas très joueur, moi, je suis pas un joueur, je n'aime pas les jeux de cartes, j'aime pas les jeux en général, je ne fais jamais au casino, c'est pas du tout mon truc. Ce que j'aime, en fait, c'est mettre des images, c'est ça que j'ai compris avec le temps, on s'analyse, c'est mettre des images sur des mots. En fait, j'aime bien la transition entre le moment où c'est écrit. Donc, j'aime bien développer l'écriture, parce que j'aime bien lire, j'aime bien avoir des avis et partager mon point de vue. Mais j'aime bien quand on passe de l'étape d'un dialogué, d'un scénario, et qu'on doit mettre des images dessus. Donc, mettre des images, c'est évidemment, en premier lieu, trouver des bons interprètes, donc les bons comédiens pour interpréter les personnages. Mais c'est aussi les costumes, c'est aussi les décors, c'est aussi toute l'équipe technique, la lumière qu'on va faire. Enfin, c'est vraiment... En fait, il y a un vrai travail comme une peinture.
D'univers,
part.
C'est ouais, faire d'univers. Vivre un monde.
C'est vraiment comme un artiste peintre. Moi, mon père était galeriste, donc j'ai grandi beaucoup avec, je pense que d'où vient aussi ma passion des artistes, avec des artistes peintres. Et c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose d'un peintre. Alors, je pense que les réalisateurs encore plus, mais nous, les producteurs, un petit peu quand même, parce qu'en plus, on doit trouver la bonne taille du tableau. Hein. On fait un 50 x 50.
La bonne toile.
La bonne toile, exactement. Et après, évidemment, on le confie à un réalisateur qui, lui, va peindre, même si on a fait un travail en amont ensemble. Justement, de plus en plus, d'ailleurs, maintenant, les producteurs et les réalisateurs travaillent main dans la main. Et c'est plus comme avant où le réalisateur vraiment faisait tout ce qu'il voulait. Maintenant, c'est fini. Les enjeux financiers sont trop importants. On est obligé d'être... Et puis, on est plus fort ensemble que divisé. Donc ça, les Français l'ont bien intégré. Et c'est vrai que le fait de passer des mots à des images, en fait, c'est ça le vrai bonheur. C'est ça ce que j'aime, moi, particulièrement.
Ce qui est grisant, c'est un accouchement.
Que je trouve grisant. C'est ça, on est un peu sage-femme de mots.
Bah, c'est vrai, ouais, parce que c'est des telles batailles, parfois, pour faire aboutir les projets, qu'on est content
quand ça
arrive.
Et d'ailleurs, je me souviens d'une phrase qui m'avait marqué d'un de mes amis, qui est maintenant d'ailleurs, le directeur des acquisitions, que je salue, Stéphane Rétoré de chez Universal, qui travaillait à l'époque pour SND, je crois, de mémoire. Il m'avait dit Jean-Charles, chaque film est un petit miracle.
Ah oui, j'aime bien ça.
Et il m'avait dit ça, et encore maintenant, j'y pense, et il avait tellement raison, c'est-à-dire que réussir à faire un film, actuellement, ça demande tellement d'énergie, il faut que un alignement des planètes tellement fort, parce que c'est des gros montants à chaque fois, que ce soit même pour un film, quand je dis film, c'est téléfilm, c'est cinéma, ou même un film indépendant totalement autofinancé. De toute façon, faire un film, c'est difficile. Et, il y a quelque chose quand même d'un peu miraculeux de passer d'un scénario à des images, quoi. C'est génial. C'est ça qui est vraiment... Enfin, moi, c'est ça qui me motive vraiment, quoi.
Alors, on arrive à la dernière partie du podcast. Alors, j'ai une petite question personnelle. C'est que, on l'a senti dans tout ton parcours, c'est ce côté, nous, qu'on aime bien du brand entertainment, brand content, c'est-à-dire le lien, finalement, entre l'univers des marques et l'univers du divertissement. On l'a beaucoup senti dans tout ton parcours. Est-ce que tu crois que la logique que tu as eue sur les Kaira, qui a été finalement de... le digital a été comme un laboratoire pour finalement incuber les projets qui sont ensuite, il a vécu sa vie au cinéma, mais est-ce que tu crois que ça peut être un bon point d'avenir pour les marques de se positionner un peu plus tôt finalement dans la chaîne de valeur de projets maison, d'histoire pour sortir entre guillemets de la pub et aller sur des formats un peu innovants ou différenciants?
Moi, de toute façon, d'une manière générale, je pense qu'il y a toujours une prime au risque. Je pense qu'à ne rien risquer, on a peu de chances de réussir, en tous les cas d'émerger. Donc ça, forcément, en tant que producteur, il y a toujours une prime au risque. Donc je pense que pour les marques, c'est pareil. Je pense qu'une marque, elle a intérêt, évidemment, nous, ça a toujours été le pari, ce qu'on proposait d'ailleurs aux marques, ce qu'on a fait avec Pepsi ou encore avec la Banque Postale, c'est de proposer de s'engager avec une prise de risque avec nous. Ils nous accompagnent sur le risque de faire émerger des nouveaux talents. Plutôt que de prendre quelque chose qui cartonne déjà et de se dire, je le prends, je le brain, je le mets, bon, ça peut marcher aussi. Mais on n'aura jamais le même taux d'adhésion, on n'aura jamais le même taux d'échange. Alors qu'une marque qui révèle un talent, qui l'amène au grand public, elle sera toujours associée.
C'est vrai.
Et nous, c'est un peu le pari qu'on faisait, c'est un peu ça qu'on proposait. Donc je rejoins complètement ton point de vue. Je pense que les marques ont tout intérêt à être un peu audacieuses. Alors même si l'audace, c'est pas toujours simple quand tu es dans un grand groupe industriel. Y a souvent des services qui sont là pour freiner. Il faut quand même que les marques réussissent à être audacieuses, parce que je pense que c'est elles qui ont tout à gagner. Je pense que parfois prendre aussi s'adosser à des producteurs ou à des créateurs ou à des réalisateurs ou à des auteurs et participer à partir du moment où on y croit à l'émergence de leur talent, quelque part elles ont un retour sur investissement, parce qu'il y a toujours une prime au risque.
Non, super intéressant ce que tu dis. Et pour toi, ça serait ça un peu ta définition du brand content ou du brand entertainment, parce que chacun va y aller de sa définition. Mais toi, qu'est-ce que tu trouves intéressant dans ce sujet du
brand content? Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sympa d'ailleurs pour une marque. Sinon, elle peut faire de la communication plus classique. Mais à partir du moment où elle va vouloir brander, s'associer à un contenu, autant que ce soit un contenu évidemment qui partage ses valeurs, mais un pari, parce que c'est pas non plus les mêmes montants qu'une énorme campagne télé ou qu'une grosse campagne d'affichage nationale. Donc c'est des montants qui sont quand même plus raisonnables, plus raisonnés. Donc à mon avis, ça vaut le coup quand même de donner sa chance à différents talents. Après, c'est toujours pareil, faut bien les scouter, faut bien les trouver, et puis faut bien organiser, comme on dit, vous savez, le marketing, c'est un stylo, un calendrier. Donc une fois qu'on a le contenu, c'est savoir à quel moment on le sort, qui on cible. Et donc je pense que oui, je pense que le brand content a cette particularité de pouvoir aider à faire émerger des talents.
Et peut-être raconter des histoires aussi sous des formats un peu différents.
Et raconter des histoires, évidemment, avec le storytelling qui va avec. C'est vrai, regardez, là encore, maintenant, je vous ai parlé de Pepsi.
C'est un genre de storytelling, d'ailleurs.
C'est un genre de storytelling. Ce podcast, c'est du storytelling. Non, mais d'ailleurs,
c'est une durée un peu plus longue, mais ça permet d'aller aussi dans des formats qui étaient peut-être difficiles avant, en termes de contenu, de sens.
Bien sûr. Et puis, c'est vrai que ça fait vivre aussi. Quand une marque est associée à un contenu qui marque, qui fonctionne et qu'elle a participé à son émergence, forcément, il sera associé beaucoup plus longtemps que si elle vient s'associer à un contenu qui est déjà hyper performant.
Il y a des exemples qui t'ont marqué là-dedans. Je pense à 7 jours à la Havane qui a été fait par Pernod Ricard. Vous avez fait des séries de courts-métrages et ça a formé un long-métrage. Bon, il y avait BMW qui avait fait à l'époque des séries de courts. Quel exemple t'a marqué, peut-être hors de ta sphère, mais des choses qui t'ont marqué de ce qui a été fait en brand entertainment.
J'avoue que les alcooliers ont souvent été très créatifs.
Oui, Pernod Ricard.
Pernod Ricard, je trouve qu'ils ont toujours été très créatifs. Après, là, en tête, je resterai là-dessus. Je resterai sur les courts-métrages.
Ok. Alors, on arrive dans les toutes dernières questions. Sur tes goûts, alors, on t'en a un peu parlé avec tes origines et les goûts de ta passion du grand spectacle, mais quelques films, séries ou musiques qui t'ont accompagné, toi, alors, c'est peut-être très récemment ou même en général, deux, trois œuvres qui t'ont toujours touché.
Qui m'ont marqué. Il y en a plusieurs, mais je dirais True Romance.
J'adore ce film. On peut se faire un quiz sur True Romance. Script de Tarantino.
Mais
réalisé par Tony Scott.
Donc déjà Tarantino à l'écriture. Quand on voit ce que ça a donné derrière et tous les chefs-d'œuvre qu'il nous a livrés, c'est quand même déjà assez évocateur. Et puis on a donc.
Qu'est-ce qui te plaît dans ce film? Parce qu'on peut. Moi, c'est un film que j'adore aussi.
Alors, c'est un peu cette culture geek avant l'heure, avec ce jeune homme qui travaille dans un vidéoclub.
Oui, c'est vrai.
Ça ne t'aura pas échappé. Et cette jeune femme Patricia Arquette, magnifique Alabama, qui est un petit peu perdue et lui va vouloir la sauver et s'embarquer dans une histoire incroyable. Donc à la fois, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est du spectacle.
Oui.
C'est une comédie romantique. C'est un film d'aventure. Mmh. Et il y a un côté thriller.
Et c'est très décalé aussi.
Et c'est une comédie. Ouais. Et donc, en fait, il n'y a que Tarantino qui a réussi à joindre ces cinq genres dans un seul film. Donc,
surtout, on ne décroche pas.
Et on ne décroche pas.
Parce que du début, quand ils sont dans le ciné, en passant par la scène avec Samuel Jackson, on ne décroche pas. Et la musique aussi. Tu es de Hans Zimmer, je crois.
C'était Hans Zimmer, oui, tout à fait.
Qui a fait une bande-son incroyable aussi.
Un petit compositeur, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Il en a fait un Gladiator.
Exceptionnel,
Hans Zimmer. Et ça fait une bonne transition avec Top Gun, puisque c'est quand même Tony Scott qui avait réalisé Top Gun. Et qu'il était en tribute du film de Tom Cruise, où il dit remerciement à Tony Scott. Qui est quand même frère de Ridley Scott. Les deux frères sont pas mauvais quand même.
Ils sont bien débrouillés, c'est vrai qu'il faut reconnaître. Donc oui, série, il y a une série, alors je sais que, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis en 1970, il y a une série que j'adore, mais qui doit être une Madeleine de Proust, mais que je revois toujours, je peux la regarder 100 fois, je sais qu'il y a plein d'auditeurs, en tous les cas, qui seront d'accord, et vous allez me prendre pour un dingue. Alors évidemment, c'est la série de Peter Falk, Columbo, qui est un chef-d'œuvre, C'est un chef-d'œuvre d'écriture, d'interprétation, de décor. Il y a tout est réuni dans cette série. Après, je regardais ça quand j'étais vraiment avant même d'aller chez mon oncle. Et j'aimais bien la regarder, cette série. Et je prends toujours autant de plaisir à la regarder. Et je sais cette série agrège des fans incroyables dans le monde entier.
Tu sais que Spielberg avait réalisé un des premiers épisodes.
Oui, Spielberg a réalisé un des
Tarantino premiers épisodes. Non, je ne suis pas sûr. Mais Spielberg, il a fait un des premiers épisodes.
Non, on a une galerie de personnages et de comédiens dedans qui est incroyable. L'écriture, c'est au cordeau. Après, c'est compliqué de faire regarder parce que ça a quand même vieilli malgré tout. C'est compliqué de faire. J'ai essayé de faire regarder ça à mes enfants. C'est compliqué au niveau
à l'ère de Netflix, mais ta réponse est audacieuse là aussi.
Voilà.
Parce que t'as pas répondu comme tout le monde, Breaking Bad.
Beaucoup Breaking Bad. Je les aime bien toutes ces séries.
C'est de revenir aux fondamentaux. Faut pas oublier qu'il y avait des super feuilletons qui datent même.
C'est génial. J'ai un petit côté oldies but goodies. Je suis un petit peu.
Il la repasse toujours 40 ans après.
Et j'aime bien les années 80. Oui, il la repasse toujours. D'ailleurs, elles sont dispo sur Amazon. Je vous invite à regarder toutes les saisons. Et d'ailleurs, j'aime bien. C'est ce que j'aime bien d'ailleurs dans les années 80. c'est qu'il y a et c'est pour ça que tout ce qui est rattaché à ces années-là, c'est finalement c'est nos dernières années de vraie liberté sans téléphone portable. C'est-à-dire que moi j'ai grandi sans téléphone portable. Mes enfants ne connaissent jamais.
D'ailleurs, tu n'en as pas devant toi.
J'en ai pas devant moi. Mais j'étais très content de grandir sans. Et je m'aperçois qu'en fait maintenant tout ce qui nous ramène sur ces années-là, qui étaient vraiment des années incroyables, on pensait que c'était ça n'allait jamais
d'insouciance.
Bouger. D'insouciance et d'une liberté. Mais c'était un truc de dingue. Il n'y avait pas le Covid.
Et je pense que c'est ce qui fait que Top Gun a autant cartonné. Parce que moi, j'avoue que j'ai adoré ce film parce que j'ai trouvé du générique. C'est une déclaration d'amour aux années 80, même la typo, il a repris la typo, et on se dit, et en même temps, ça met en avant des bonnes valeurs. Alors, on pourrait dire, oui, c'est caricatural, mais je trouve qu'il y a plein de bonnes valeurs. Alors, bon, c'est le cinéma américain, ils savent faire, on va dire, ils sont rodés. Mais je trouvais que ça faisait du bien, en plus, en sortie de Covid, de voir ce film... qui était un vrai moment de plaisir, de divertissement. Et ça a cartonné, 2 milliards. Donc les années 80, la planète a suivi.
Je rappelle que la série de Stranger Things, qui est la série de Netflix, qui est une série totalement 80s, ça se passe en 84. Donc à l'époque, moi j'avais 14 ans, c'est-à-dire l'âge des héros qu'on voit dans la série. Et c'est vrai que c'est pareil, cette série qui est absolument extrêmement bien réussie, la dernière saison d'ailleurs que j'ai bien appréciée pour juste voilà. Et puis pour conclure sur une autre série, je vous ai dit j'adore le cinéma coréen. Je trouve que les Coréens sont exceptionnels au niveau de l'écriture. Évidemment, je pense que tu as vu, toi, Alexis, le film Parasite.
Ah oui, c'est un des films que j'ai préféré depuis 10 ans.
On est d'accord, c'est un chef-d'œuvre. Et je trouve que les Coréens sont aussi bien au niveau culturel, aussi bien au niveau musique qu'au niveau cinéma, qu'au niveau de l'audiovisuel en général, sont en train de prendre le pas sur les Américains, qui ont intérêt à se remettre un petit peu en question pour pouvoir, parce que le cinéma coréen, enfin l'Asie va faire très très mal. Donc et puis ça fait plaisir de voir justement cette culture émerger qui amène aussi son style, sa passion,
son esthétique
regard,
aussi.
Son esthétique, exactement.
C'est ce que j'ai adoré dans Parasite, c'est cette esthétique, et tout en ayant un film coup de poing, avec du sens. Et alors la toute dernière question, Jean-Charles, c'est le conseil que tu donnerais, toi, à un jeune producteur ou une jeune productrice qui se lance là en 2022, en sortie d'études, allez, je vais monter ma boîte de production. Toi, qu'est-ce que tu dirais?
De bien réfléchir. De bien réfléchir dans un premier temps, de savoir qu'est-ce qui le motive vraiment. Est-ce que c'est la production ou est-ce que c'est la réalisation? Bien comprendre quelles sont ses attentes. Donc déjà, peut-être...
Un petit travail sur soi, déjà.
Voilà, un petit travail sur soi. Pas mélanger les postes. Moi, je sais que j'étais vraiment fait pour la production, plus que pour la réalisation. J'aurais peut-être adoré réaliser, mais je pense que je suis trop Speedy Gonzalez. Moi, je suis quand même très... J'aime bien quand ça va vite. Je suis un peu hyperactif. Donc, je ne sais pas si j'aurai la patience du plateau. Par contre, la production, après, c'est évidemment scouter les bons projets, réfléchir à quel type de film ou quel type de projet on veut faire, et puis se projeter dans la réussite, se visualiser en train de réussir, faire appel aux lois de l'attraction pour que ça marche. Je l'ai fait, ça marche.
Et beaucoup de ténacité,
ténacité
les deux. Merci beaucoup Jean-Charles, c'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast, l'Entertainment Lab.
Plaisir partagé.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.